Geburtstag. Das ist was für ihn. Er ist so cool. Ein ganzer Mann. Groß und schön. Das macht an. Mann von Paul, hey, kennt ihr ihn, Mann von Paul?
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence pour une émission consacrée cette fois-ci à Paul Valéry, un auteur qui est à la fois très connu, en particulier chez les littéraires français, qui est un peu un totem des études de lettres en France, et en même temps sans doute assez peu connu parce que étudié dans un angle justement purement littéraire, on oublie un peu que c'était quelqu'un qui s'est en réalité aussi beaucoup intéressé à la science et à la philosophie. Et un de nos invités réguliers, Jacques Bouvresse, lui a consacré plusieurs articles où justement il s'amuse assez fréquemment à rapprocher Paul Valéry de positions assez assez hétérodoxes par rapport à la tradition française, en particulier la tradition philosophique française. Donc Bouvresse s'amuse souvent à comparer, enfin à faire de Valéry une espèce d'anti-philosophe, un peu à la manière de Wittgenstein ou un peu à la manière du Cercle de Vienne. Voilà, donc là on va, c'est Jean-Mathias qui a dégoté deux petits livres qui ont l'air vachement intéressants. Alors je remarque que comme d'habitude, Jean-Mathias, il prend des petits livres, ils font à peine 60 pages. Et en plus,
il en a pris deux.
Et bon, il en a pris deux, ça va. Mais bon, peu importe, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Size does not matter, comme on le sait. Absolument. Et puis, mais bon, peu importe. Donc, vous avez un premier livre de Paul Valéry qui s'intitule donc Principe d'anarchie. édité chez Espace et Signe. Donc c'est un tout petit bouquin qui est pas bien cher, hein, 6 balles. Et un autre livre dans la même collection, enfin dans la même maison d'édition, de Paul Valéry encore, Les fruits amers de la démocratie. Voilà, donc l'anarchie...
Dans les deux cas, c'est des rééditions, dans les deux cas, mais c'est des rééditions récentes, parce qu'elles datent du printemps dernier, là, de mars dernier. Et alors, peut-être dire deux mots peut-être du coup sur les textes, en fait, et puis sur leur édition au départ. Donc c'est des rééditions dans les deux cas. Le principe d'anarchie, c'est la réédition... Alors c'est les textes qu'il a écrit, que Valéry a écrit dans ses carnets. Donc Valéry, il avait une habitude, en fait, pendant toute sa vie, enfin toute sa vie littéraire, sa vie d'écrivain en tout cas, c'est que le matin, avant d'aller travailler, et il a eu différents postes. C'est pas un militant révolutionnaire, hein, Valéry.
Vraiment pas.
Pas du tout.
C'est un grand bourgeois.
C'est un grand bourgeois. Il a travaillé pour des bourgeois encore plus grands que lui. Et en fait, par contre, avant d'aller travailler, ce qu'il faisait, c'est qu'il rédigeait des carnets, donc avant, au petit jour, on va dire, avant l'aube.
Donc je crois qu'il se levait à 5 heures pour écrire.
Donc il notait ses réflexions. Alors bon, voilà, il écrit beaucoup de poésie aussi. Et aussi des réflexions plus théoriques ou plus philosophiques. Alors ça, les principes d'anarchie, c'est effectivement tiré de ces carnets. Et c'est des textes qui n'étaient pas destiné immédiatement à la publication dans son esprit, qu'il a légué à son fils, en fait, de son vivant. Et en fait, la première édition de ses Principes d'anarchie date de 84, donc c'est relativement récent. Il est mort en 45, lui. Donc voilà, et là on a une réédition, mais avec juste ces principes-là, donc un joli petit livre. Et l'autre, Les fruits amers de la démocratie, alors ça c'est une espèce de compile, en fait, de différents textes, aphorismes, qui sont, eux, disponibles dans un livre de poche qui regroupe des essais de Valéry et ses théories sur l'actualité de l'entre-deux-guerres. C'est écrit entre 36 et 38, si je me trompe pas. Et ça s'appelle Regard sur le monde en poche. Et donc là, il y a des textes qui ont été rassemblés, compilés autour du thème de la politique et de la démocratie. Alors, ces deux petits bouquins qui sont courts, hein, tu l'as signalé, qui sont courts, mais qui sont, je dois dire, assez impressionnants. Alors, le premier, Principe d'anarchie, comme le deuxième, Les fruits amers de la démocratie. Alors, peut-être pour deux mots sur Valéry, puisque tu l'as présenté un peu rapidement là, mais de fait, Valéry, c'est pas du tout un militant révolutionnaire. Hein. Et c'est pas non plus quelqu'un qui est habituellement classé comme un auteur de sensibilité anarchiste. Les dates de Valéry, c'est 1871-1945. Donc il connaît les deux guerres mondiales. Il commence plutôt du côté de la poésie, hein, en fréquentant Mallarmé, beaucoup.
Il est très jeune quand il fréquente Mallarmé, que Mallarmé doit mourir début 1900. Oui, il le fréquentait à ce moment-là, oui, il est surtout poète. Après, il va devenir haut fonctionnaire, je crois.
Ah, il devient haut fonctionnaire. D'abord, il est, je crois qu'il est secrétaire du patron d'Havas, voilà, une grande société. Puis après, effectivement, surtout après la Première Guerre mondiale, en fait, il va devenir un peu pas l'écrivain officiel, mais en tout cas, il a une reconnaissance officielle et institutionnelle considérable, c'est-à-dire qu'il va rentrer à l'Académie française, puis il finit au Collège de France avec une chaire de poétique qui est créée spécialement pour lui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il démérite pas particulièrement, puisque sous l'occupation, en fait, il collabore pas. Il fait un éloge, alors, depuis sa place, hein, qui est celle, voilà, de quelqu'un très âgé et puis de très reconnu au Collège de France, mais il fait un éloge de Bergson, donc, qui était un philosophe juif. En pleine occupation, bon, alors c'est pas non plus l'attaque du train, il fait pas sauter des rails, hein, mais il est viré de son poste suite au discours quand même. Et en fait, il meurt donc directement, à la fin de la guerre. Et là, funérailles nationales, gaullistes, etc. Donc c'est pas vraiment quelqu'un qu'on s'attendrait à voir du côté de la défense de principes anarchistes ou d'une réflexion anarchiste. Alors, je lui dis tout de suite, c'est quelqu'un qui, si on parle d'anarchie ici, on est dans un anarchisme qui est très intellectuel, hein, si vous voulez, philosophique même, on pourrait dire, c'est-à-dire très abstrait. Cela dit, moi, je suis assez impressionné par la précision des textes, là, des formules qu'il utilise. C'est assez difficile à présenter ces deux textes-là parce que ce sont des espèces d'aphorismes ou de paragraphes relativement courts à chaque fois, et c'est un peu construit, si vous voulez, comme des espèces de haïku, quoi, des coups, ces poèmes japonais là d'une seule phrase, là, comme des coups de hache à chaque fois. Donc on va en lire un certain nombre là ce soir parce que ça vous donnera une idée un petit peu de voilà du style de Valérie et puis de la portée en fait de ces réflexions là. C'est une forme d'anarchisme alors donc intellectualisant on pourrait dire intellectualiste aussi même d'une certaine manière assez abstrait en même temps assez fascinant je trouve. Peut-être, alors avec une petite limite hein, qui est liée à ça aussi, c'est que du coup c'est une forme d'anarchisme patricien, on pourrait dire, hein, si on reprend des termes et on embrasse Olivier, qui nous écoute peut-être. Mais effectivement, on est plus sur ce type de positionnement-là. Hein, cela dit, encore une fois...
Ça pourrait être intéressant parce que dans certains courants anarchistes, y compris plus impliqués syndicalement ou politiquement, on n'est pas toujours très très éloigné de certaines formes d'élitisme. Du type nous les êtres conscients, nous qui sommes en quelque sorte un petit peu à l'avant-garde si j'ose dire aussi et ça pourrait aussi se rapprocher alors ce serait pas du tout du côté anarchiste mais ce que disait Rancière à un moment dans l'Aide de la démocratie dans une note je crois, il dit que l'individualisme chez justement les patriciens est toujours valorisé pour les patriciens. Et de ce point de vue-là, on peut penser qu'il va y avoir une espèce, il peut y avoir des espèces de rencontres étranges entre certains patriciens type Paul Valéry et justement le courant anarchiste sur cet individualisme qui peut aussi emprunter à Nietzsche d'ailleurs.
Exactement. C'est une influence qui est assez intéressante parce que alors on retrouve des thématiques qui sont effectivement liées aux anars de droite en fait. Hein, je dirais, c'est-à-dire une espèce de crainte à l'égard des masses, une espèce de méfiance à l'égard de la démocratie, on va en parler, de méfiance à l'égard du nombre de manière générale,
de l'État aussi,
de l'État évidemment, de l'État des nations. Et là où c'est quelque chose qui est assez fascinant quand même, c'est aussi une méfiance à l'égard de la politique en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fascination de la part de Valéry pour le pouvoir, pour l'autorité. En fait, si on peut dire qu'il est individualiste et qu'il a une dimension patricienne, il situe lui du point de vue d'une espèce de communauté des esprits, on va dire. La vie de l'esprit est fondamentale pour lui, c'est-à-dire qu'effectivement, il pense que la vie de l'esprit elle est fondamentalement le fait d'individu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des mécanismes d'adhésion collective ou de mobilisation collective, on est forcément dans le mensonge à soi-même et dans le mensonge tout court. Donc on est aux frontières de la politique là. Et en fait, il pense l'anarchie effectivement en ces termes-là. Ce qu'il supporte pas en fait d'une certaine manière. En quoi il se pose anarchiste, c'est la première formule qui est reprise là dans le texte. Hein. Anarchie pour lui, c'est la tentative de chacun de refuser toute soumission à l'injonction qui se fonde sur l'invérifiable. Alors c'est une formule qui est très écrite, mais c'est au fond l'injonction arbitraire, d'une certaine manière.
Du type « croyez-moi ».
Du type « croyez-moi », exactement.
Donc l'anarchiste serait celui qui justement qui refuse systématiquement de croire si justement l'injonction à la croyance n'est pas fondée sur des choses vérifiables.
Alors, il continue. « L'individu distingue l'individu dans le précepte ou la doctrine qu'on veut qu'il adopte et qui se revêt de termes dont nul individu n'est capable. Dès que quelqu'un, d'une certaine manière, cherche à nous imposer quelque chose au nom d'une justification qui serait apparemment transcendant, c'est-à-dire supérieur à celle de son point de vue, de sa manière de voir individuelle à lui, celui qui nous ordonne, il y a méfiance. La formule, c'est ça. « Sois sûr de ce dont je t'assure et ne suis pas sûr et ne puis l'être. » L'anarchiste, c'est celui qui a une espèce de sensibilité exacerbée par rapport à celui qui cherche à lui imposer une croyance dont lui-même n'est pas certain et ne peut pas être certain, puisque par définition, c'est une croyance qui essaie de nous vendre plus que ce que n'importe qui est capable de justifier ou d'expliquer.
Du type, suivez-moi, c'est Dieu qui a dit qu'il fallait me
Exactement.
Suivre.
Exactement, alors ça peut être Dieu, ça peut être la nation, mais ça peut être le progrès, ça peut être
la révolution, ça peut être plein de choses. Hein.
Alors donc il y a ce point de vue là, ce qui en fait du coup c'est en ça que je dis que c'est une forme d'anarchisme très intellectualisant, c'est-à-dire qu'effectivement on le retrouve dans le domaine, c'est d'abord un anarchisme d'idées, je dirais, hein, avant d'être un anarchisme de pratique.
Faut dire même épistémique ou
quelque chose de cet ordre-là.
C'est-à-dire un anarchisme qui s'appliquerait uniquement aux conditions de possibilité de la connaissance.
Alors du coup, évidemment, ça l'amène à se méfier de toute forme, effectivement, de croyance qui se réclame d'un collectif, ou qui se réclame d'un groupe donné, que ce soit une nation, une classe, ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Et ça l'amène aussi à se méfier, y compris des justifications qui peuvent être faites en termes de démocratie. Donc là, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté de sa part. Alors, on est aussi en 36-38, hein, avant donc une période où la démocratie a... En partie, en tout cas, n'a pas empêché effectivement d'Hitler d'accéder au pouvoir en Allemagne, où effectivement les masses ont aussi d'une certaine manière, elles n'ont pas empêché Mussolini d'accéder aussi au pouvoir en Italie. Donc il y a une espèce de comment dire de perte effectivement d'adhésion en quelque sorte au pouvoir qu'aurait la démocratie de maintenir effectivement les sociétés dans une espèce de vision un peu idéale de progrès et d'égalité pour tous. Alors, par exemple, cette idée du lien entre la démocratie et le nombre, comme d'une certaine manière gouvernement de la majorité, hein, comme il le dit souvent, alors il le formule de cette manière-là, la démocratie met la force avec le nombre. Le petit nombre avait la force avec soi pendant qu'il était fait d'un choix des forts. Quand ce petit nombre s'est assez mêlé de faibles, il est deux fois plus faible et succombe. Les forts sont ceux qui peuvent et savent traiter les autres comme des choses, avec un heureux et durable succès. Alors là, ça c'est un thème aussi qu'on retrouve chez lui, qui accompagne sa méfiance à l'égard de ceux qui cherchent à imposer des idées qui ne sont pas en mesure de justifier. Ça accompagne aussi sa crainte des masses, des grands nombres, tels qu'il le développe souvent. Et ça, c'est peut-être l'aspect qui, moi, m'a le plus plu, effectivement, dans ces textes-là. C'est sa méfiance à l'égard de la politique en général, à l'égard du pouvoir en général. Et en ça, effectivement, c'est une forme d'anarchisme qui est très conséquent. C'est-à-dire que il y a de nombreuses, très nombreuses formules, très, très, très brillantes, très ciselées, dans lesquelles il montre que, finalement, si on veut exercer une autorité ou un pouvoir politique, à quelque échelle que ce soit, eh bien, il faut cesser de considérer les gens comme des individus. Il faut les considérer toujours forcément comme des masses de manœuvre ou comme des choses, comme des animaux éventuellement, comme un troupeau. C'est-à-dire en tout cas comme une matière sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut qu'on peut conduire, qu'on peut modifier, à qui on peut imposer une certaine forme. Et ça, c'est quelque chose qui n'accepte pas, qui supporte pas. Alors il y aurait beaucoup de formules de ce type-là. Je vais essayer peut-être d'en trouver pour illustrer cela. Voilà, très bien. Alors voilà, page 30 par exemple, où il formule les choses comme ça, il nous explique « Il est impossible de faire de la politique, entre guillemets, ou de se livrer à quelque propagande que ce soit, en considérant les autres comme nos semblables, c'est-à-dire comme matière non malléable, ce que nous refusons toujours pour nous-mêmes. Il faut donc considérer comme une injure le fait de celui qui veut nous infliger une opinion au moyen des moyens d'action qui visent la sensibilité et tentent à nous saisir par la voix où l'intensité, la surprise, les instincts ou les souvenirs vont plus vite que toute analyse et dispensent des preuves et précisions réfléchies. »
C'est amusant, ça fait vraiment écho aussi à ce qu'on avait un petit peu vu avec Violence et Secrets de Glaser.
Exactement.
Sur la propagande utilisée par les nazis.
Bah c'est la même époque.
C'est pour ça que j'y pensais. Et qui va finalement être imité aussi par le Parti communiste allemand, mais aussi par les partis communistes en France ou ailleurs, avec uniforme, massification du parti, etc., etc. Et c'est assez marrant de voir à quel point il écrit vraiment dans son époque, et je pense que le lien que tu faisais tout à l'heure avec justement la critique de la démocratie, la critique du nombre et l'installation plutôt que la montée des fascismes en Europe à ce moment-là, je pense que c'est très très lié.
Ça c'est clair. Après, si tu veux, ce qui enlève du contexte, effectivement, là tu as une analyse de la propagande qui est assez universelle. Et en même temps, voilà, c'est ça, tu as la question effectivement, qu'est-ce qui nous reste au-delà.
Ça sert très très bien dans le contexte des années 30.
Tout à fait.
Il n'empêche qu'elle reste valable.
Exactement. Alors, il continue d'ailleurs sur la suite, pareil. La connaissance la plus importante à l'homme de la politique, c'est celle de la crédulité, de l'ignorance et de l'extrême simplicité de la masse, et de la vanité ou de la cupidité naïve, de la timidité et bêtise des autres, etc. L'ignorance chez les très instruits et leur crédulité en ce qu'ils savent n'est pas non plus négligeable.
Attends, répète cette dernière phrase.
L'ignorance chez les très instruits et leur crédulité en ce qu'ils savent n'est pas non plus négligeable. Ça, c'est la version de Valérie des idiots utiles. Cette connaissance, et alors ça j'aime beaucoup aussi, très précis, cette connaissance doit être presque instinctive. Elle ne sert bien que si l'on n'est pas obligé de faire des efforts pour traiter les bêtes en bêtes et les non-bêtes en faibles ou en canailles. C'est ce qu'on appelle le sens politique, pour Valérie, c'est ça, en fait. C'est cette espèce de capacité, en fait, à immédiatement et presque instinctivement, comme il le dit, à traiter les autres non comme des égaux, comme des individus capables de réfléchir par eux-mêmes, mais comme des gens crédules, ignorants, sur lesquels qu'on va pouvoir manipuler.
C'est Georges Frêche, ce personnage extrêmement sulfureux et raciste, de Montpellier, qui avait dit une fois, qui aurait dit dans un reportage, un journaliste qu'il suivait tout au long d'une campagne, il avait dit, voilà, j'ai fait une trentaine de campagnes, j'en ai perdu deux, c'est les seules que j'ai menées de façon intelligente.
Oui, ça résume assez bien, ouais.
Et justement, son credo, c'était, il faut faire campagne politique pour les imbéciles.
Ouais.
Et c'est assez tragique malgré tout, mais bon, c'est bien ce que décrit Valérie d'une façon assez assez ciselée pour le.
C'est souvent ciselé. Alors après, peut-être avant une première pause, une petite formule aussi comme ça pour essayer de montrer en quoi effectivement la politique, alors la politique en général, mais plus particulièrement effectivement une politique qui se met au service des masses. En fait, là pour le coup, il est typiquement de son époque, effectivement. Les masses sont au contraire magnifiées aussi bien par les partis communistes de l'époque que par les fascistes ou nazis. Donc ça, c'est très contextualisé. Mais effectivement, ce qui dépasse un peu l'époque, me semble-t-il, et puis ce qui s'inscrit dans une espèce de tradition anarchiste qui est aussi très ancienne, qui est effectivement le caractère irréductible de l'individu et de la liberté individuelle, au fond. Alors, ça se trouve formulé comme ça chez lui. Il est des choses, j'aime beaucoup la formulation aussi, il est des choses qui ne sont pas vraies à toutes les heures, qui sont difficilement vraies quand l'homme est seul et s'éveille au cœur de la nuit, qui deviennent vraies devant les autres, et plus que vraies quand les autres sont en foule. Rares sont ceux qui demeurent dans les mêmes vérités à toute heure et en toute présence. Ce sont de ces corps qui n'entrent pas en combinaison. Ça, c'est assez brillant aussi comme manière de formuler les choses. Voilà, sur l'individu est celui effectivement qui
sur celui qui ne modifie pas ses
ses
croyances en fonction
du jour ou de l'heure et du nombre
et du
de
nombre
la situation et de l'accompagnement dans lequel il se trouve.
Et assez rare.
Qui ne s'enthousiasme pas par le fait d'être conforté par ceux qui l'entourent et effectivement et il en fait une affaire de corps. Hein. C'est-à-dire effectivement les individus c'est d'abord des corps qui n'entrent pas en combinaison. Voilà. Effectivement, l'individu des masses, en quelque sorte, qui va nier son individualité, qui va nier sa liberté de réflexion, d'imagination, d'invention et de mise en doute et aussi voilà, de demande de justification, c'est celui qui, au contraire, d'une certaine manière, intérieurement, est prêt à la combinaison, qui va l'annuler, en quelque sorte, en tant qu'individu singulier.
C'est intéressant qu'il parle des corps. Souvent, en lisant ces petits aphorismes, en t'écoutant, là, ça me fait penser un petit peu, et à la façon dont il parle, ça me fait penser à certains aphorismes de Blaise Pascal.
Ah, tout vrai.
Et sauf que chez Pascal, Pascal, il y a l'idée qu'il faut se soumettre à la religion,
oui, sauf que...
et que, la soumission à la religion commence par le corps. Du type, si vous n'arrivez pas à croire, abêtissez-vous, faites les gestes, etc., etc. Et c'est assez marrant, ce serait intéressant de comparer ce qu'il dit de la justice et de la masse, parce que Pascal dit aussi des choses très réactionnaires en Pascal, parce qu'il est convaincu que ce monde est forcément perdu et que le meilleur des mondes, c'est après, c'est au paradis. Et donc, on vit au milieu des iniquités. Et la masse, ce qui est important du point de vue de la politique, c'est qu'elle croit être dans un monde juste, pour ne pas qu'elle se révolte trop.
Oui, mais alors là, tu fais bien de parler de Pascal là-dessus, mais après, on fera une pause là-dessus, parce que Pascal est quelqu'un qui est pas présenté comme un adversaire pour Valérie, puisqu'il en parle dès le début, dès le début du texte. Alors, ce qui l'intéresse, c'est le Pascal mystique. C'est le Pascal mystique, il lui dit « Pascal est le type de l'anarchiste et c'est ce que je trouve de mieux en lui. Anarchiste, entre guillemets, c'est l'observateur qui voit ce qu'il voit et non ce qu'il est d'usage que l'on voit. Il raisonne là-dessus. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire si, il précise encore « Tout mystique est un vase d'anarchie, devant Dieu considéré dans le secret de soi et comme un secret de soi, rien ne tient. Tout pouvoir est méprisable. Cependant, qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que le pouvoir ? L'un est le plus fort absolument, par définition, c'est Dieu. » L'autre le plus fort, mais pragmatiquement. Alors, comment faut comprendre ça? Vous voyez que c'est un anarchisme assez singulier et assez abstrait, assez intellectualisé et discutable aussi, il faut quand même le dire. Mais c'est là ce qui l'intéresse chez Pascal, c'est le fait que oui, chez Pascal, il y a ce côté, la croyance passe par une forme de conformisme du corps. Effectivement, tu conformes ton corps en faisant les gestes, en disant les mots, en faisant les prières, etc., etc. Et petit à petit, effectivement, la croyance germe en toi. Mais c'est un moyen. Le conformisme, ce conformisme-là physique chez Pascal. Et ce qui l'intéresse, j'imagine, Valérie, c'est le fait que Pascal est aussi à une dimension effectivement mystique très forte, c'est-à-dire que pour lui, Dieu est effectivement une espèce de transcendance absolue, à l'aune de laquelle aucun pouvoir, en quelque sorte, ne peut avoir la moindre légitimité. Aucun pouvoir politique, aucun pouvoir humain de nature humaine. Alors, effectivement, du coup, on est sur un anarchisme extrêmement abstrait, hein, parce que aller tirer Pascal du côté de l'anarchie ou d'un anarchisme chrétien, c'est assez original. Mais c'est en ce sens-là, effectivement, que Valérie le dit. Bon, c'est un passage, effectivement...
On va faire un intermède musical... José nous a trouvé un petit morceau de René Binamé qui s'appelle Paul et Jacques. Paul c'est Paul Valéry, Jacques c'est Jacques Bouvresse. Comme j'ai signé tout à l'heure, Jacques Bouvresse a écrit pas mal sur Valéry. Voilà, donc un intermède avec René Binamé et puis on se retrouve après. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie, donc d'une émission consacrée à Paul Valéry, à deux petits ouvrages qui ont été publiés de façon posthume. Donc le premier, c'est Principe d'anarchie. Le second, c'est Les fruits amers de la démocratie. C'est édité aux éditions... j'ai oublié, Jean-Mathias, tiens, filme le bouquin.
Espace et signes.
Espace et signes. Mmh. Moi, je pensais Espace et vigne, mais ça, c'est parce que je suis alcoolique. Et, et donc, voilà, finalement, on vous a passé deux morceaux, parce que le premier était vraiment très, très court. Comme on vous a bien saoulé, il était temps de passer des choses bien, quoi. Donc, René Binamé. Et ensuite, c'était La colonne du Ruti, de Ruti Column, Details for Paul. Voilà. On vous parlait un petit peu de manière un peu décousue des ouvrages de Valéry, qui sont eux-mêmes décousus, puisqu'ils sont publiés sous la forme d'aphorismes, qui traitent donc des questions qui sont liées justement à des questions importantes, qui sont liées à l'action politique, enfin, comment dire, à la pensée, à la croyance, et au lien qu'il y a entre ce que l'on croit être vrai en particulier, et justement la façon dont la politique va essayer de nous englober là-dedans, ou pas.
Comme tu dis, effectivement, c'est des textes qui sont assez difficiles à commenter, parce que il y a une qualité d'écriture et de style là, dans les formules de Valéry, qui est très impressionnante. Alors du coup, effectivement, on va peut-être prendre le temps de les lire et peut-être de les relire aussi, hein, y compris à l'antenne, parce que c'est des textes qu'il faut lire plutôt qu'entendre. Et en même temps, effectivement, alors très compliqué de faire le tri entre ce qui relève, parce que le style est ciselé sur tout. En fait, hein, je le dis franchement, moi, je surconseille, parce que c'est un vrai bonheur de lecture. Après, la difficulté, c'est effectivement de voir ce qui relève de thématiques de l'époque. Hein, on est dans les années 30, encore une fois, un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a la montée des théories communistes des masses, hein, qui est déjà là depuis une vingtaine d'années. On a les masses mobilisées aussi du côté de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie de Mussolini. Donc cette espèce de crainte des masses qui broierait l'individu, le type de civilisation sur lequel il s'est construit aussi. Donc ça, c'est effectivement très lié à un contexte historique particulier, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui vont bien au-delà. Hein. Un rapport à la politique qui est profondément individualiste, et donc une méfiance à l'égard de la politique, un rapport de défiance au pouvoir qui est également radical, le pouvoir étant d'abord conçu comme la capacité à faire croire quelque chose à quelqu'un. Et donc effectivement, le pouvoir, c'est d'abord ça, hein, tel qu'il est pensé par Valéry, et donc il y a une espèce effectivement de réflexe qu'on peut effectivement qualifier d'anarchiste de manière légitime, hein, à l'égard de toutes les tentatives de nous faire croire ou de faire croire à un individu quelque chose qui irait au-delà de ce que son expérience lui prouve ou de ce que son raisonnement lui démontre, hein, qui est tout à fait intéressante. Alors sur la politique, peut-être là je passe au deuxième, petit recueil qui s'appelle Les fruits amers de la démocratie. Je vais lire lentement, hein, pour effectivement qu'on puisse savourer la chose. Donc c'est le début du texte sur la politique. Alors c'est formulé comme ça. « La politique, écrit Valéry, fut d'abord l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. »
Ça, c'est la meilleure définition de la politique que j'ai jamais entendue, mais bon.
Ça se combine. À une époque suivante, on y adjoignit l'art de contraindre les gens à décider sur ce à quoi ils n'entendent rien. Sur ce qu'ils n'entendent pas. Autrement dit, sur ce qu'ils ne comprennent pas. Ce deuxième principe se combine avec le premier. Parmi les combinaisons, c'est celle-ci. Deux points. Il y a des secrets d'État dans les pays de suffrage universel. Combinaison nécessaire et en somme viable, mais qui engendre quelquefois de grands orages et qui oblige les gouvernements à manœuvrer sans répit. Le pouvoir est toujours contraint de naviguer contre son principe. Il gouverne au plus près, contre le principe, dans la direction du pouvoir absolu. Toute politique se fonde sur l'indifférence de la plupart des intéressés, sans laquelle il n'y a point de politique possible. Alors, vous voyez, là, c'est une espèce de plongée dans ce style-là. On est presque dans comment dire, des combinaisons mathématiques, là, la façon dont c'est écrit. Là.
Je pensais vraiment à Pascal, et en particulier, si vous cherchez un texte pour comparer, vous pouvez chercher dans les pensées, un texte qui a été intitulé ensuite par les éditeurs de Pascal, qui s'appelle Justice Force. Et qui est écrit exactement de la même façon. On a fait la justice, comment dire,
on a fait en sorte que ce qui était fort soit juste.
Voilà.
C'est ce type de maîtrise du style-là. Je continue sur politique quand même, parce que c'est assez savoureux. Le mot politique a deux sens. Deux points, conquête et conservation du pouvoir, Premier sens.
Ça, c'est Machiavel, mais bon.
Deuxième sens, organisation de la cité. Le premier sens est très précis. Le second l'est beaucoup moins. Mais le second sert éternellement de déguisement au premier.
c'est construit assez souvent comme ça.
Il faut avouer que dans tous les cas possibles, politique et liberté d'esprit s'excluent. Celle-ci, la liberté d'esprit, est l'ennemi essentiel des partis, comme elle l'est d'autre part, de toute doctrine en possession du pouvoir. C'est ça, au fond. En quoi, effectivement, il se pose en anarchiste, effectivement, fondamentalement, à l'égard de n'importe quel, effectivement, gouvernement et de n'importe quelle politique, au fond, d'une certaine manière. Alors, y compris lorsqu'elle est démocratique, parce que lorsqu'elle est démocratique, elle prend effectivement les apparences d'une espèce de servitude consentie, hein, ce qui est une tradition effectivement de critique de la démocratie qu'on trouve assez souvent chez les anarchistes. Mais il me semble que là, c'est poussé par Valérie au plus loin, quoi. On n'est pas très loin effectivement de thèmes qui sont ceux de l'anarchisme à la Stirner, hein, une espèce d'individualisme absolu, avec quand même l'idée que chez Valéry, il y a une vérité, il y a des faits, et que c'est au nom de cette vérité et au nom des faits et du respect de la vérité d'une certaine manière que l'individu se doit de résister à toute forme d'embrigadement et d'imposition des croyances, hein, et voilà. Particulièrement dans le domaine politique. C'est en ça que c'est une position qui est très forte. Hein, en réalité, hein,
il rejoint aussi, en opposition un peu, certains textes de d'Alexis de Tocqueville, l'auteur libéral français, qui justement.
Il y a une forme d'aristocratisme.
Mais c'est des textes de Tocqueville sur la démocratie où il dit, globalement, en démocratie, il ne faut pas que chacun cherche la vérité par lui-même, parce qu'on a besoin de croyances invérifiables, partagées, afin de pouvoir agir ensemble. Et effectivement, on retrouve, c'est en miroir inverse, quoi, le truc de Valérie. C'est du type, justement, moi, je ne mange pas de ce pain-là, je veux pas croire avec vous parce que je veux pas croire tout court. Après, justement, je pense qu'on les limites, ce sera sans doute un peu celle de Stirner, c'est qu'effectivement, ce genre de personnage, politiquement, ne peut quasiment rien faire.
Ah oui, on est sur...
Parce qu'il est obligé de dire, c'est sans moi, les gars. Parce que comme il veut absolument se rallier à un quelconque point de vue collectif, c'est pour ça qu'il écrit tout seul dans son bureau à 5h du mat, ouais. En gros.
Bon. C'est les limites effectivement les limites pratiques, je dirais, hein, d'un positionnement comme celui-là. Après, du point de vue intellectuel, tu parlais effectivement de Tocqueville où tu rapprochais, mais sur la maxime que je citais tout à l'heure, hein, le fait de rien accepter en termes d'injonction qui ne soit pas justifiable, c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez Russell, exactement à la même époque. Hein,
Ouais, mais Russell s'investit politiquement.
Bien davantage que Valérie. Je continue peut-être encore quelques formules là-dessus, puisque c'est le principal intérêt, moi, du texte, quoi. C'est d'être mis en présence de cette maîtrise stylistique déjà de l'écriture. Hein. Alors sur la démocratie toujours. En démocratie, régime de la parole ou des effets de la parole, tout devient politique entre guillemets. Et politique, entre guillemets, en démocratie, signifie à peu près dramatique, entre guillemets. Tout est relatif aux impressions d'un public. Ce sont les lois du théâtre qui s'appliquent. Simplification, illusion perpétuelle sous peine de rire et de mort, tout pour les faits, tout dans le moment, des rôles tranchés, ce qui est difficile à entendre, proscrit, ce qui est difficile à exprimer, n'existe pas, ce qui demande de longs préparatifs avec attention prolongée, une mémoire exacte, indifférence au temps et à l'éclairage, se fait impossible. Un mot échappé tue un homme de premier ordre. Il continue sur ça. Il y a un certain nombre de points. Alors c'est pareil. Bon, on est un peu sur le name dropping, hein. Mais il y a des thématiques effectivement qu'on retrouve à peu près à la même époque. Hein, mais dans l'homme sans qualité de Mouzy, je trouve, hein. Une espèce de sensibilité au caractère complètement préprogrammé, quoi. Des rôles, des intrigues, des espèces de moules qui sont déjà en place, quoi, pour commenter n'importe quel événement, n'importe quelle controverse, n'importe quelle échelle.
Dans l'histoire, on peut s'attendre à ce que la myriade de possibles se retrouve dans la 6 douzaine de moules à gaufres, dont la cake est déjà préparée.
Ça, c'est ce qu'on trouve chez Mouzy. Bon, là, effectivement, c'est des thèmes qu'on retrouve là. Alors, ça, c'est pareil. On peut le comprendre aussi par rapport au contexte de l'époque. C'est-à-dire, effectivement, le caractère extrêmement grossier, finalement, des ressorts de propagande mis en place aussi bien par Hitler que par Mussolini ou par d'autres.
Qui a complètement déprimé les intellectuels de l'époque.
Complètement.
Qui croyaient sincèrement que des gens comme Hitler ou comme Mussolini étaient trop idiots, trop grossiers pour arriver quelque part en politique. Ouais. Et beaucoup d'entre eux ont été vraiment très déçus quand ils ont vu le succès énorme de ces battleurs de foire. Ouais. Enfin, Hitler, on l'appelait le tambour parce que je crois qu'il faisait du boucan dans les brasseries.
Ouais, tout à fait.
Et donc, pour des intellectuels du niveau de Valérie, évidemment, voir que ces gens-là arrivent en comptant systématiquement sur la bêtise la plus crasse qu'on a tous en nous,
c'est le risque démagogue en fait qui voit dans les démocraties essentiellement. Pour le coup, tu parlais du battleur de brasserie à propos d'Hitler. Alors là, je dis page 31, dans les fruits amers de la démocratie, tout individu qui s'occupe d'une quantité d'autres indistincts les réduit dans sa pensée à l'état de matière, ce qu'on disait tout à l'heure. Il veut en faire quelque chose. Quand même il voudrait en faire des saints, il pense donc en matérialiste, entre guillemets. Et quand ils voudraient faire leur bonheur, entre guillemets, ils les pensent comme bétail. Car l'intervention de la quantité, c'est-à-dire de l'opérateur nombre, transforme nécessairement ce qui est énuméré ou évalué. Si tu comptes des hommes, tu comptes des sacs. Si tu parles à une foule, tu parles à un enfant. Si tu convertis un peuple, tu dresses un chien. Si tu prêches par l'exemple, tu engendres un mouton. Mais si tu procèdes un par un et séparément, tu agis dans la différence et tu peux enrichir chacun et tu t'enrichis toi-même avec certitude. Celui que tu veux convaincre te convaincra parfois et celui que tu veux séduire te séduira. Mais si tu t'appliques à la multitude indistincte, prends garde qu'elle ne te réduise à ne plus penser que ce qu'elle peut subir. C'est des formules qui sont quand même assez impressionnantes, je trouve. Et derrière ça, il y a en plus de la part de Valérie une application de concepts arithmétiques, pour le coup, assez rigoureux. C'est-à-dire qu'en fait, il pense effectivement un ensemble à partir de manière distributive. C'est comme ça qu'on respecte les individus. Si par contre effectivement on s'adresse au tout en tant que tel, il faut la seule chose qui nous restera entre les mains, la seule chose qu'on construira, c'est ce que cet ensemble-là est prêt à subir, dit-il. Voilà. Donc c'est ce type de formule assez impressionnante, enfin je trouve. Alors ça marche évidemment comme critique.
Et il explique aussi assez souvent pourquoi on peut avoir le sentiment que la plupart des hommes politiques professionnels n'ont absolument aucune conviction et qui sont tout le temps en train d'essayer de suivre l'air du temps.
Tout à fait. Il y a une vraie réflexion sur l'autorité, moi je trouve, derrière ça, parce que si tu veux,
qui gouverne finalement, parce que si pour gouverner on est obligé,
c'est la fameuse formule, je suis leur chef, il faut donc que je les suive.
Ça.
Et il y a vraiment ça. Et alors, dans le cas de la démocratie, effectivement, le vernis égalitaire et respectueux des individus, effectivement, et en plus le risque d'être trompeur, quoi, d'être fallacieux. Il y a des formules là-dessus. Voilà. Le peuple, c'est l'ensemble des non-chefs. La démocratie est dire, deux points, l'ensemble des non-chefs est un chef. Point. Bon, voilà, il n'y a pas de commentaire à tirer. Il y a la poche, là, pour le coup, effectivement, quasiment logicienne, en fait, du concept. La politique démocratique, c'est-à-dire statistique, dit-il. Alors ça, c'est pareil, c'est des thèmes qu'on retrouve aussi chez Mouzil, qui ont été traités par Bourresse aussi, d'ailleurs.
L'ensemble des non-chefs et le chef, c'est pas le paradoxe du barbier revisité ou...
Ça se peut, enfin, ça me saute pas aux yeux, là, mais... Mmh. Alors la seule chose, effectivement, démocratie, voilà, autre formule, page 33, démocratie n'a de sens non absurde que celui de possibilité de formation continuelle d'une aristocratie. Bon, donc en fait...
D'accord, c'est l'idée que dans la démocratie, il n'y a pas d'aristocratie, il n'y a pas de numerus clausus en termes d'aristocratie.
La réalité sociale d'une démocratie, sociale et politique, effectivement, c'est le fait de c'est la mobilité, c'est l'ascension sociale, au fond. Mmh. C'est la ascension sociale méritocratique qui te forme une aristocratie.
Avec l'impossibilité pour Valérie, et ça c'est un petit peu déprimant son affaire, d'échapper à l'oligarchie finalement.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y aura toujours un petit nombre de chefs qui domineront, quoi qu'il arrive.
Oui, ouais. Il y a cette idée-là, ouais.
Ouais, donc forcément, c'est un truc de plus qui va dans le sens de l'inaction complète en politique.
Ah ben, il est 6 heures du matin.
J'écris pour moi-même.
Le jour n'est pas encore levé. L'Europe est au bord de la Deuxième Guerre mondiale mais quelle merde, quoi. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Mais cela dit, c'est pas rien en même temps de faire ça. C'est pas rien non plus. On est sur cet espace-là. Là. Peut-être une petite pause avant de terminer sur la manière dont il conçoit la liberté, justement, individuelle dans ces deux textes-là.
Le départ de mon parcours se situe au cours moyen. Entre amour et haine sans recours, je me constitue mitoyen, loin des instituts des doyens. Écrire fait frémir, rire de l'imparfait gémir. Les mots et moi on crée nos liens. Un rien paralysé, il réveille mes sensations grisées, mal canalisées. Je m'éveille à la passion, hors des chemins balisés. Je me perds à mon insu, dans la risée analysée. Est un repère, une issue, jamais déçu de mes compères. Quand mes parchemins s'enlisaient, avec eux j'espère mes lendemains réalisés. Obstiné sur un pupitre, je rédige mes manuscrits. À 13 piges j'écris la destinée est en sous-titre et arrive 98. Tout bascule, je dérive seul pour être ensuite sur la rive où tout se bouscule. C'est la fuite vers un nouveau pays de cocagne, un univers, un renouveau. Haï par hypocagne, ébahi, mes oreilles s'infestent. De ces voix marginales, en moi il y a manifeste. La loi du point final, les émois de demain, c'est loin. D'un nuage de fumée, sûr comme un rat dans le coin, chaque fois la rage me consumait. Au fil des mois, j'assumais mes références en somme et sans préférence pour les durs ou ceux qui l'armoient. Éloigné des sommets et des cieux aux poussières d'azur, silencieux et assommé, je soignais mes premières mesures. De ma tour d'ivoire, le spectacle est lumineux. Autour on peut y voir des obstacles faramineux. C'est les peurs d'un homme en lambeau, entier sans fioriture. Mais le cœur est comme un flambeau sur le sentier de l'écriture. De ma tour d'ivoire, le spectacle est lumineux. Autour on peut y voir des obstacles faramineux. C'est les peurs d'un homme en lambeau, entier sans fioriture. Mais le cœur est comme un flambeau sur le sentier de l'écriture. Mes premiers raps sont réducteurs, vont du coq à l'âne, attrapant mon fil conducteur. Le son me frappe lorsque je flâne et je plane sur mon cahier. Fantasque plein d'ardeur, juste un casque, un baladeur et un stylo pour défrayer. Le style est chancelant, fait de fadeur et de colère. Rien d'excellent, hostile même avec mon polaire. Secret et distrait dans le système scolaire. Discret sous l'astre solaire, maîtrisé et mes thèmes restent abstraits. 2001, premier groupe de l'air pour mes premières peurs. Plein d'amour pour mes troupes, de pierre sera le cœur. Passent les saisons, l'instrumental nous hypnotise. Le mental plein d'édoraison qu'un peu soutiennent nos sottises. Soudés, jamais scindés, nos idées sont sans registre, accoudés au poste CD. On s'enregistre, mais nos phases s'essoufflent tandis que les bases nous retiennent. Trinque à l'ancienne, à nos places et à second souffle. Dès lors des questionnements, me surplante et me dévore. J'apprends les phrases, leur fonctionnement, que de belles plantes sont carnivores. Reprends en solitaire, entre en faculté de l'être. Entre mes manques identitaires et les difficultés de l'être. Sonatine une armature, on se fait label à 5. Un label pour ossature, sa baratine on me requinque. Et mes projets matures, l'indolence est mon armure. Mon silence à ses murmures quand sur le trajet je sature. De ma tour d'ivoire, le spectacle est lumineux. Autour on peut y voir des obstacles faramineux. C'est les peurs d'un homme en lambeau, entier sans fioriture. Mais le cœur est comme un flambeau sur le sentier de l'écriture. De ma tour d'ivoire, le spectacle est lumineux. Autour on peut y voir des obstacles faramineux. C'est les peurs d'un homme en lambeau, entier sans fioriture. Mais le cœur est comme un flambeau sur le sentier de l'écriture.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie, après un morceau de Feissa, Le Sentier de l'Écriture. Voilà, donc on vous parlait de deux petits ouvrages de Paul Valéry, Principes d'anarchie et Les fruits amers de la démocratie, publiés par la maison d'édition Espace et Signe. Voilà, et en feuilletant les ouvrages pendant l'intermède, je suis tombé sur un petit texte assez bien tourné, comme d'habitude, avec Valérie, hein, qui s'intitule « Liberté ». Je vous le lis. « Il faut se garder contre ceux qui parlent dans un porte-voix, qui injurient, apostrophe, contre ceux dont les discours sont discours de puissance plus grande qu'un homme.
qui font parler les choses fictives, le peuple, l'histoire, les dieux et les idoles. Contre ceux qui traitent des autres et les considèrent et en raisonnent comme d'une matière de leur jugement et de leur dessein. Qui les font agir, payer, se battre. Qui stipulent pour eux. Qui prétendent mieux connaître leurs intérêts et leurs besoins qu'eux-mêmes. Donc effectivement, ce genre de texte est très typiquement anarchiste, je crois.
Ouais, il est mourir pour des idées.
Oui.
L'idée est excellente. J'ai failli mourir de ne pas l'avoir, point de vue.
Ou aussi dans l'idée d'un refus radical, finalement, du paternalisme en politique.
Exactement.
L'idée étant, enfin, paternalisme ici, je le définis comme celui qui sait ce qui est bien pour vous mieux que vous et qui, par conséquent, revendique d'exercer une autorité sur vous au nom, justement, de cette connaissance.
Et ce que je trouve fort dans son positionnement, c'est qu'en fait, sa position consiste à dire que celui qui vous vend ça, c'est lui qui vous vend du vent.
Toujours.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, d'autorité, l'idée c'est quoi? Il n'y a jamais d'autorité qui soit convaincue de son bien fondé. Au fond, c'est ça, la force de sa position.
Ce serait quoi? Ça voudrait dire que toutes les puissances sont des cyniques?
Il y a quelque chose de cet ordre-là, les cyniques ou des grossiers, c'est-à-dire effectivement, c'est la formule que je te donnais là tout à l'heure, homme d'État, voilà, je prends ça un peu au hasard, page 44, là, dans les fruits amers de la démocratie, homme d'État est celui qui voit les choses assez grossièrement pour agir. Il y a cette idée-là, c'est-à-dire celui qui, effectivement, qui renonce à son individualité, qui renonce à la liberté de son esprit, d'une certaine manière, à sa liberté de raisonnement, d'imagination, de critique. C'est ça effectivement qui te met en position de conviction d'une certaine manière, de conviction et de prêcheur, que ce soit effectivement prêcheur de la nation ou de telle religion ou de telle communauté ou autre. Mais l'idée c'est que tu ne peux pas honnêtement être personne ne peut jamais être honnêtement convaincu de son autorité d'une certaine manière
sur autrui. Bien fondé de son autorité.
Du bien fondé de son autorité sur autrui. C'est ça l'idée au fond. Et c'est en ça qu'effectivement, il est profondément anarchiste, oui. Ça, c'est là-dessus, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Alors après, en termes effectivement de prolongement pratique ou de prolongement organisationnel, là, effectivement, on a un gros point d'interrogation. Mais du point de vue, le point de départ, il est assez assez fascinant, je veux dire. Alors après sur la liberté, puisque c'est là-dessus qu'on voulait en parler. Alors, il y a cette formule là, c'est toi qui a le texte sur les paradoxes qui sont liés à l'idée de liberté. J'essaie de vous retrouver ça. Sur ce qui nous... Au fond, il y a cette idée que l'idée même de liberté qui est souvent mise en avant, notamment dans la devise républicaine française, est tout sauf... Tout sauf simple et sauf transparente. Bon, alors je la trouve pas là pour l'instant, mais je vous en donne une autre quand même. Au passage, alors c'est sur un autre sujet, mais on l'évoquait aussi tout à l'heure, sur l'homme providentiel. Alors évidemment, l'homme providentiel...
Oui, celui qui n'est pas...
À l'époque...
Celui qui ne peut pas être convaincu du bien fondé de son propre pouvoir, à l'époque, l'homme providentiel est très très à la mode. Il y a des hommes providentiels un petit peu partout, en Espagne, en Italie...
Avec des grosses ou
France,
des petites moustaches,
tard, c'est voilà. Ça.
Et donc, puisqu'on est juste avant la Seconde Guerre mondiale, et donc l'homme providentiel, mais ça, pour le coup, moi, je reprends la formule telle qu'elle et je la garde aujourd'hui, même si on a affaire à un homme providentiel sans moustache. Quand une nation a besoin d'être sauvée, dit Valéry, de temps à autre, par un homme extraordinaire ou par un événement très improbable, ces miracles, donc l'homme providentiel ou l'événement improbable, ces miracles la montrent assez à plaindre. Mais il arrive qu'elle se vante de les avoir obtenus. C'est se vanter de n'avoir pas su se tirer d'un mal par soi-même. C'est s'accoutumer à négliger le réel. Donc la nation qui se vante effectivement de s'être dotée ou d'avoir trouvé son homme providentiel, effectivement pour Valéry, c'est au fond la nation qui en réalité ne veut pas assumer le fait de ne pas avoir réglé ses problèmes par elle-même et non pas par une espèce de miracle. Et donc, on est dans l'homme providentiel, c'est la définition du déni du réel. Donc, évidemment, ça marche pour Hitler, ça marche pour Mussolini, ça marche pour Mélenchon, mais ça marche aussi, pensez à l'élection de Trump récemment, par exemple. Je vous la relis. Quand une nation a besoin d'être sauvée de temps à autre par un homme extraordinaire ou par un événement très improbable, ces miracles la montrent assez à plaindre. Mais il arrive qu'elle se vante de les avoir obtenus. Make America Great Again, c'est se vanter de n'avoir pas su tirer d'un... pas su se tirer d'un mal par soi-même, c'est s'accoutumer à négliger le réel. Le passage aux fake news et à la post-vérité, au refus du climatosé, au refus du réchauffement climatique, et au niveau de vie suicidaire, de l'Américain moyen. Pour le coup, la connexion, elle est extrêmement étroite.
Le déni de l'importance des travailleurs mexicains dans le système économique américain. Enfin, Trump, c'est vrai qu'il a fondé son pouvoir sur le déni du réel. Et là-dessus, c'est pas le premier, c'est sans doute pas le dernier. Hitler a fait la même chose, parce que bon. Aller essayer de prouver que 5% d'une population qui est censée adhérer à une religion différente du reste représente un danger mortel pour les Aryens, fallait quand même l'oser. Mais justement, à la rigueur, là, ça renverrait à ce que disait Goebbels, plus c'est gros, plus ça passe. Mmh. C'est-à-dire que l'homme providentiel peut tout à fait mentir de façon éhontée, savoir qu'il ment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il ne peut jamais être convaincu de sa propre légitimité. Et malgré tout, ça peut extrêmement bien fonctionner parce qu'il y a des gens qui vont le suivre. Alors, tu as retrouvé la citation que tu cherchais tout à l'heure.
J'ai retrouvé la citation que j'ai cherchée tout à l'heure sur la liberté et sur l'ambiguïté, effectivement. L'ambiguïté, en tout cas, la difficulté qu'il y a à définir une notion comme celle de liberté, qui est pourtant mise en avant à toutes les sauces, y compris, là, pour le coup, chez les libertaires, puis qui en font effectivement la notion cardinale. Alors, je vous lis la formule parce qu'elle est assez incroyable. Il est entendu que les droits que l'on est... Alors c'est dans le rapport de la liberté face à la loi, et au fait de respecter une loi. Il est entendu que les droits que l'on est censé se retirer à soi-même le sont en vertu d'une liberté supérieure à la liberté de les exercer. Cette simple remarque suffit à démontrer dans quel embarras d'expression et de pensée le terme de liberté nous introduit. Alors là, on a deux phrases. Pour moi, c'est le En termes de problématisation d'une notion ou d'un concept philosophique, c'est un chef-d'œuvre. Je relis ça. Il est entendu que les droits que l'on est censé se retirer à soi-même le sont en vertu d'une liberté supérieure à la liberté de les exercer. Le paradoxe qui est pointé ici par Valérie, alors qu'il n'invente pas, mais qu'il assume, et puis qu'il ne cherche pas à éviter, c'est le fait qu'effectivement, le fait de considérer que ma liberté a des limites, et que donc je ne peux pas faire ce que je veux, est toujours justifié par le fait que quand je limite mes propres choix, mes propres actes, mes propres décisions, eh bien c'est pour devenir en réalité plus libre que je ne le serais si j'étais simplement dans l'exercice.
Chez un philosophe politique comme Hobbes qui va dire que Rousseau, justement il faut limiter la liberté naturelle avant l'état social et en droit infini mais extrêmement restreint dans les faits, parce que si chacun fait ce qu'il veut, alors personne ne peut vraiment faire ce qu'il veut puisqu'il y a toujours des obstacles qui sont posés par la liberté des autres. Et par conséquent, ce que va dire Hobbes, c'est qu'il est beaucoup plus raisonnable de justement accepter de limiter cette liberté et donc d'avoir une liberté qui est finie en droit, mais qui est beaucoup plus étendue et solide en fait.
Et ce qu'il nous montre là, juste par cette en une phrase, là, effectivement, il nous montre que toutes les difficultés qu'il y a à donner un sens précis à ça. Il continue son enquête là-dessus. Je vous livre ça parce que c'est des textes qui sont absolument remarquables. On est à page 39. Je trouve que l'idée de liberté n'est pas première chez nous, dit Valérie, elle n'est jamais évoquée qu'elle ne soit provoquée. Je veux dire qu'elle est toujours une réponse. Nous ne pensons jamais que nous sommes libres quand rien ne nous montre que nous ne le sommes pas, ou que nous pourrions ne pas l'être. L'idée de liberté est une réponse à quelque sensation ou à quelque hypothèse de gêne, d'empêchement, de résistance, qui s'oppose soit à une impulsion de notre être, à un désir d'essence, à un besoin, soit aussi à l'exercice de notre volonté réfléchie. Je ne suis libre que quand je me sens libre, mais je ne me sens libre que quand je me pense contraint, quand je me mets à imaginer un état qui contraste avec mon état présent. La liberté n'est donc sensible, elle n'est conçue, elle n'est souhaitée que par l'effet d'un contraste. Alors, je trouve qu'en un paragraphe, ça vaut pas mal de traités, effectivement, écrits, rédigés, analysés sur la question. Et alors, pour terminer peut-être là-dessus, ce qui fait l'attrait, je trouve, en même temps que l'originalité de cette position anarchiste-là, c'est que, alors je sais pas si on peut résumer ça comme ça, mais au fond, on a une position qui part d'abord d'une espèce de respect inconditionnel de la vérité telle qu'elle est accessible uniquement à des individus, plutôt que un point de départ qui partirait sur une théorie ou sur un concept de liberté un peu fixé à l'avance. Au fond, c'est ça, il me semble, le qui fait l'originalité de cet anarchisme-là, la défendue par Valérie, cette espèce de combinaison un peu particulière. En fait, la vérité, finalement, n'est accessible que par et pour un individu, pratiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a de vérité que subjective ou que personnelle, hein, ce n'est pas un relativisme, mais en même temps, il faut cette espèce de lien d'authenticité dans l'accès à la vérité, et qui repose sur un individu qui s'assume comme esprit critique, imaginatif et libre. Et au fond, la liberté n'a de sens que là-dedans, comme critique, d'une certaine manière.
C'est le fait qu'il y a des vérités, indépendantes de notre esprit ou indépendantes des discours qu'on peut tenir sur elle, qui nous oblige à être libre à leur égard.
Exactement.
Enfin,
exactement.
Être obligé à l'égard des contraintes, je pense.
On a quelque chose de cet endroit-là.
C'est à l'égard de la vérité que nous devons être libres, justement, peut-être.
Exactement. Exactement.
Mais donc, effectivement, c'est pas du tout politique. On va s'arrêter parce qu'après, il y a Entre chien et loup. Et donc, c'était deux ouvrages de Paul Valéry, Les fruits amers de la démocratie et Les principes d'anarchie, édités chez Espace et Signe. Donc, si vous aimez bien le beau style et que vous aimez bien gamberger un peu sur des aphorismes parfois un peu très très denses, disons, ben vous pouvez vous pouvez les lire, voilà, ça coûte pas bien cher et c'est deux petits bouquins qui sans doute vous donneront à penser. Voilà, donc c'était Jeudi Noir. On laisse l'antenne à Entre Chien et Loup et on se retrouve dans deux semaines. I'm strong.